Je vous avais parlé un petit peu hier de Proverbes chapitre 9. On va relire un petit peu quelques versets, rappeler certaines choses. On avait parlé que dans ce chapitre, il y a à la fois la sagesse qui crie, et puis aussi il y a la fausse sagesse, la sagesse de ce monde, la sagesse diabolique, la sagesse charnelle, et qui est en réalité une femme qui est folle, bruyante, et qui crie et qui fait un appel aussi à ce qu'on vienne vers elle. On avait vu qu'au verset 1, la sagesse a bâti sa maison et elle a taillé 7 colonnes. Ça signifie que cette maison, elle est sûre, elle est solide, elle est enracinée. Elle est fondée sur Jésus-Christ. De même que l'Église est l'endroit où la sagesse de Dieu se manifeste. Et même si l'Église n'est pas parfaite, on voit ça dans Apocalypse 2 et 3, hein, les 7 Églises pour la plupart d'entre elles, sauf 2, des manquements. Néanmoins, ce sont ces 7 colonnes, ces piliers qui nous parlent de toute l'histoire de l'Église, passée, aujourd'hui, présente et à venir. Et c'est par l'Église que la sagesse de Dieu se manifeste. Des fois, on a du mal à y croire, quand on voit ce qui peut se passer dans l'Église. Mais néanmoins, l'Église est le véhicule par lequel Dieu parle aujourd'hui au monde. Il n'utilisera pas d'autres véhicules. Alors, il peut utiliser la nature, il peut utiliser la conscience. Bien entendu, ces choses perdurent, existent. Mais pour avoir une révélation de Jésus-Christ, c'est par l'Église que cela se fait, par le témoignage de l'Église, témoignage parfois imparfait, mais n'empêche que c'est la sagesse de Dieu d'avoir voulu utiliser l'Église pour révéler Christ dans ce monde. Et donc, nous avons un mandat, nous avons un privilège particulier, c'est de manifester cette sagesse de Dieu qui est une folie, d'utiliser des personnes qui vont faillir. Et on a un exemple dès le début avec les apôtres. Je veux dire, les apôtres ont été choisis par Jésus-Christ. Et néanmoins, ils ont failli plus d'une fois, ils ne comprenaient pas tout. Ils étaient même des fois durs à comprendre, ils étaient longs à comprendre. Mais néanmoins, Dieu les a choisis et ils ont pu témoigner de la sagesse de Dieu, du salut qu'il y a en Jésus-Christ parmi le monde. Et c'est quand même un mystère de voir. On n'aurait pas parié un copec, comme on dit, sur ces 12 apôtres, vraiment. Et pourtant, ils ont renversé un empire, presque. D'accord ? Ils ont fait des choses extraordinaires. Et ça, l'Église l'oublie un peu, aujourd'hui. Bien entendu, j'en parlais l'autre jour, on a besoin d'étudier la parole de Dieu, d'avoir des capacités intellectuelles, une forme de sagesse liée aux dons même que Dieu nous donne. Mais pourtant, Dieu va utiliser aussi des gens faibles. Et on a besoin dans l'Église de reconnaître, au-delà de la faiblesse des individus, le potentiel qu'il y a en Jésus-Christ chez eux. C'est vital de comprendre cela. C'est que, vous savez, là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est-à-dire qu'il y a toujours une opportunité pour Dieu d'utiliser celui qui un jour a un cœur après Dieu. D'accord ? Ce qui est important, c'est d'avoir des cœurs disponibles. Et on peut être surpris parfois que des gens relativement simples dans leur formation, dans leur éducation, leur langage, puissent parler avec une autorité. D'accord ? Avec une autorité. Et cette autorité, elle vient d'en haut. C'est une sagesse qui vient d'en haut. Vous savez, vous pouvez avoir des gens qui ont très bien réussi socialement, ils ont une bonne scolarité, mais ils sont incapables de gérer leur famille, par exemple. Ce sont des mauvais conducteurs. Où est la sagesse ? Il y a la connaissance, il y a une performance, il y a une réussite sociale, financière, tout ce que vous voulez. Et en même temps, le couple vit un drame permanent pendant des années. Où est la sagesse ? Et donc, il faut mettre des priorités dans notre vie et se dire, Seigneur, ce qui manque chez beaucoup d'entre nous, mais chez moi en particulier, c'est la sagesse. J'ai besoin d'être sage. Et donc, j'ai besoin d'apprendre à penser avec toi. Alors, penser avec Dieu n'est possible que si on connaît la doctrine, la didascalia, la parole de Dieu. C'est la doctrine qui nous permet de pouvoir penser avec Dieu. Il faut savoir une chose, certains d'entre vous le savent déjà, mais pour les nouveaux, peut-être c'est important de le rappeler ce soir, c'est que Dieu nous a créés d'une manière à ce que l'on qu'on compartimente les choses, mais dans le bon sens du terme, et qu'on puisse définir chaque chose que l'on voit. C'est pour ça quand Dieu a créé le jardin d'Éden avec les animaux, il a donné à Adam autorité de nommer les animaux. On a besoin de mettre un mot sur les choses. Donc, de façon plus générale, aujourd'hui, si je suis devant les Écritures, le mot « amour », qu'est-ce que ça signifie pour Dieu, pas pour moi, pas pour le monde. Je veux dire, le mot « amour » est utilisé à tout bout de champ aujourd'hui. Mais pour toi, Seigneur, le mot « amour », qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi l'amour? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la justice selon toi, Seigneur? Il y a la justice des hommes, il y a ma justice relative, il y a ta justice qui est absolue, qui est liée à ta sainteté. Mais voilà, explique-moi, montre-moi. Et on va dans les Écritures pour chercher la pensée de Dieu. Et donc, ce qu'on appelle la doctrine classée en catégories nous permet de structurer notre pensée. Qu'est-ce que le mariage? C'est quoi la définition du mariage? Quelle est sa raison d'être? Aujourd'hui, on peut en donner différentes définitions qui peuvent avoir un sens. C'est la structure familiale permet de préparer les nouvelles générations. Donc, j'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un à l'extérieur. Dans toutes les sociétés, pratiquement toutes, le mariage structure les générations futures. On prépare la génération future. Alors après, il y a différentes sortes de règles concernant le mariage. Mais en tout cas, le mariage est universel en ce sens que on prépare l'avenir d'une civilisation, d'une société ou d'un clan. Mais ça, c'est qu'une facette du mariage. En réalité, la définition du mariage, elle ne se trouve pas en elle-même, en lui-même plutôt, dans le mariage. La définition se trouve dans le rapport entre Christ et l'Église. C'est l'Épître aux Éphésiens qui nous donne la définition du mariage, en réalité. La pleine révélation du mariage que nous avons, c'est l'Épître aux Éphésiens. C'est-à-dire que Christ est la tête et l'épouse et le corps de Christ. Christ est l'époux et l'Église est la future épouse, on va dire la fiancée de Christ. Et le mariage terrestre est une image d'un principe spirituel. C'est-à-dire que le mariage est un témoignage en ce sens. Et d'ailleurs, aujourd'hui en Occident encore, lorsque vous avez que les gens soient chrétiens ou pas, athées ou pas, lorsqu'il y a une cérémonie, il y a un rituel, et ce rituel respecte en grande partie le sens spirituel du mariage. C'est-à-dire que la mariée arrive, qui est le type de l'Église, en blanc, purifié par le sang de l'agneau, et l'époux attend l'Église, c'est Christ qui est au ciel, attend l'ordre du Père pour que le mariage se fasse. Et donc, on a là l'expression d'une vérité spirituelle. Donc, le mariage, c'est pas simplement Dieu a décidé que c'est comme ça, comme on le verrait en tant que loi. Bien sûr, il y a les lois du mariage, mais ce n'est pas la finalité du plan de Dieu. La finalité du plan de Dieu, c'est de se révéler. Et il se révèle en partie grâce au mariage. Le mariage est un lieu où l'amour inconditionnel peut être manifesté pendant des années, qui est le prémisse de l'amour éternel de Dieu entre l'épouse et le mari, Christ. Et nous, en tant que chrétiens, quand on se marie pas simplement pour établir un plan sur la terre, même si on doit en avoir un, mais surtout on est fiers de représenter sur la terre une manifestation visible d'une réalité spirituelle. Et donc c'est la sagesse de Dieu dans le mariage, c'est-à-dire qu'on voit le mariage comme une image d'une réalité spirituelle qui ne se voit pas. Et quand on n'a pas compris ça, bien entendu, on peut trouver des solutions qui vont marcher pour avoir un mariage réussi, mais sera-ce le plan de Dieu? Ce n'est pas sûr. Et donc, nous avons besoin, à chaque fois, d'avoir des définitions de Dieu. Nous avons un avantage par rapport à d'autres croyants de l'Ancien Testament, par exemple, c'est qu'on a la pleine révélation. Dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas l'Épître aux Éphésiens, par exemple. Même si, déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu appelait Israël son épouse, sa femme. Donc, on avait déjà une idée un petit peu de ce lien qu'il y avait entre Dieu et Israël. Et donc, encore une fois, tout se vit par la foi. Il y a un monde qui est là, spirituel, qui n'est pas très loin, qui est là. Mais c'est dans une autre dimension, je dirais. Et nous, nous sommes les témoins de cette réalité spirituelle, parce que le Saint-Esprit parle à notre esprit, et par la foi, nous avançons dans cette dimension-là. C'est ça, vivre selon le plan de Dieu. Et cette maison avec ses sept colonnes, c'est aujourd'hui l'Église qui est la sagesse de Dieu. Et à l'intérieur de l'Église, il y a l'Esprit qui parle et qui appelle pour que des gens viennent à Christ, qui viennent vers celui qui est sage, vers l'Ancien des Jours. Et donc, au verset 2, on avait vu que cette sagesse a égorgé ses victimes. Littéralement, je n'avais pas donné cette définition, ça signifie égorger ses bêtes de boucherie. Et ça, donc il y a la notion de sacrifice là, dans ce passage. Donc la sagesse a égorgé des sacrifices, et ces sacrifices qui, dans l'Ancien Testament, puisque Proverbe a été écrit dans l'Ancien Testament, parlent des sacrifices répétés par Israël, en permanence réitérés, mais ça nous parle, pour nous chrétiens, du sacrifice ultime, c'est-à-dire que la sagesse a construit sa maison sur un sacrifice. La sagesse n'a pas construit sa maison sur une loi parfaite, sur une notion du bien et du mal accomplie et bien gérée. Non, la sagesse a construit sa maison sur un sacrifice, parce qu'à cause du péché, elle ne pouvait pas se construire autrement. Il a fallu qu'il y ait le sacrifice de Christ pour que la maison soit bâtie. Et nous, qui voulons exprimer cette sagesse de Dieu, on ne pourra pas l'exprimer si on ne bâtit pas notre vie, notre existence sur la notion de sacrifice. On doit donner notre vie pour les autres. On doit donner notre vie pour Dieu. On doit donner notre vie pour l'épouse, pour le mari. On doit donner notre vie pour l'Église, donner notre vie pour les perdus. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir une vie sage aux yeux de Dieu s'il n'y a pas cette notion de sacrifice. Alors après, ça se décline ou ça se décrit selon le contexte ou dans différents livres bibliques différemment. C'est ce que Jésus dit, chaque jour il faudra prendre sa croix pour suivre Jésus. C'est cette notion-là. C'est-à-dire que non pas moi mais Christ, c'est Galates 2:20, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est toute cette notion-là où on va se livrer et s'il n'y a pas une forme, comme dit Paul, vous savez, à la fin de sa vie, bon, lui, c'était littéral, il dit « ma vie sert de libation pour l'avancement de l'Évangile », mais nous, spirituellement, ça doit être le cas. On doit se livrer, notre vie doit être comme une libation pour que la puissance de Dieu se manifeste et que la sagesse de Dieu se manifeste. Parce que autrement, qu'est-ce qu'il se passait ? Si je me sacrifie pas, si je construis ma vie sans cette notion de sacrifice, automatiquement, je vais essayer de me préserver. Et si je me préserve, je ne vais pas opérer selon la sagesse de Dieu. Parce que c'est une folie d'agir pour Dieu. C'est une folie que de se sacrifier. C'est une folie que de considérer les autres comme supérieurs à soi. C'est une folie de pas permettre à notre ego de s'exprimer comme il le voudrait. C'est une folie de renoncer à tout ce qu'on avait pour aller de l'avant. Tout est une folie dans la vie chrétienne. Donc s'il n'y a pas cette notion de sacrifice, et elle est à tous les niveaux, elle peut être dans les détails de la vie, je mets le couvert, j'aide la personne parce que je sens qu'elle est stressée, et donc j'aide à faire la vaisselle, ou je vais à la poubelle, ou je fais les courses, ou je me lève cette nuit, parce que même si c'était autour de l'autre de se lever la nuit, mais là je sens que je dois aller au-delà et je me sacrifie. Donc ça commence là, et puis de façon peut-être plus radicale, c'est laisser un métier et puis tout lâcher et de se dire « Non Seigneur, tu m'as donné des dons, une vocation et j'y vais et on verra bien. Et je suis prêt à livrer ma vie pour toi. » Et c'est une folie pour ceux qui nous regardent, qui nous entourent, et pourtant ça va être la sagesse de Dieu. C'était une folie pour Dieu, j'en parlais dans de questions-réponses cet après-midi un peu improvisé, mais... C'est une folie que Dieu ait choisi l'apôtre Paul pour remplacer Judas. Enfin, je veux dire, attendez, hein, reposons-nous, réfléchissons un peu. Contre qui Jésus en a eu pendant les quatre évangiles, c'était les pharisiens. D'accord? Il choisit un pharisien. Et il choisit pas un Nicodème. Tu vois, un gars qui s'approche la nuit, mais en se disant quand même, c'est peut-être lui le Messie, et puis Jésus va dire, allez, je lui fais plaisir, hein, je vais le nommer apôtre, il va aller un peu plus loin. Non, non, on va nommer quelqu'un qui est bien, bien loin de Nicodème. Quelqu'un qui persécute l'Église. Donc, qui persécute Christ. Et Christ va dire, bah, tiens, on va choisir celui-là. Pourquoi? Parce que ma sagesse, qui est liée au sacrifice que j'ai fait, et ce sacrifice a payé le prix des péchés de Saul de Tarse, et je connais la puissance du Saint-Esprit qui peut agir en lui, je connais son cœur que lui-même ne connaît pas, cette soif d'absolu, de rencontrer le Messie, le Dieu vivant, et le jour où Jésus se révèle à lui sur le chemin de Damas, cet homme, loin de tout, s'est retrouvé très proche de Jésus-Christ. Il a été sauvé. C'est une folie. Et je peux imaginer les apôtres qui entendent la nouvelle, d'abord, peuvent douter un peu, ils peuvent craindre, on peut les comprendre, c'est peut-être un subterfuge, il se déguise, il va nous persécuter. Puis après, ils s'aperçoivent, peut-être avec le temps, que le Saint-Esprit accomplit des miracles au travers de lui, qu'il a une sagesse particulière, qu'il prêche, qu'il a des dons. Et là, au bout d'un moment, on se dit, mais c'est pas juste. Nous, on était pendant 3 ans avec lui, avec Jésus, on a appris et tout, l'autre était bien loin, et pourquoi cet homme-là serait choisi et irait de par le monde, lui aussi? Mais ça n'a rien à voir avec la justice qui est d'en bas. Pourquoi? Parce que la justice d'en bas, naturelle, ordinaire, voire charnelle, légaliste aussi, va dire, mais attends, toi t'en as pas assez fait, ou t'en as trop fait, donc tu mérites pas. Et puis Dieu dit, non, on efface tout, on recommence. On est sur une autre sagesse là, à un autre niveau. Moi j'ai payé le prix, j'ai effacé vos péchés. Donc maintenant, c'est plus Saul de Tarse, c'est Paul, et cet apôtre va accomplir des choses extraordinaires pour moi. Ça c'est la sagesse de Dieu. Mais cette sagesse est liée à cette maison, avec ses 7 colonnes, qui a égorgé ses victimes. Si elle n'avait pas égorgé ses victimes, ça n'aurait pas été possible d'agir selon cette sagesse-là. C'est une sagesse qui est liée à l'œuvre de la croix. Donc, il est impossible d'être sage dans nos choix, dans les relations qu'on peut avoir les uns avec les autres, s'il n'y a pas le calvaire en permanence, l'odeur de la croix dans notre vie. Une odeur de mort qui engendre la vie en nous. Et donc, la sagesse a égorgé ses victimes, elle a égorgé ses bêtes de boucherie, elle a mêlé son vin, littéralement, elle a mélangé le vin au sacrifice, aux victimes. Et ça nous parle du sang, évidemment, du sang de Christ, qui efface tout. Qui efface tout. On connaît la différence qu'il y a entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Lorsque le sang était versé sur le propitiatoire, c'est le mot kafar qui est utilisé. Et donc, ça veut dire que les péchés étaient couverts. Mais lorsque les péchés sont couverts, on peut les discerner en dessous quand même. Il y a du relief. Mais on les voit pas. Mais ils sont quand même là. Ce qui fait que ça n'ôte pas complètement la culpabilité. C'est pour ça que l'Épître aux Hébreux dit que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas satisfaire Dieu ni notre conscience. Et à un moment donné, le sang de Christ dans l'histoire de l'humanité a été versé. Et là, en grec, c'est le mot hilasmos qui parle non pas simplement de couvrir, mais qui efface. Un peu comme, moi j'y connais rien, mais il y a des détergents magiques, vous savez. Vous avez une tache grosse comme ça sur la cravate, expérience, et vous avez l'épouse qui a le détergent qu'il faut, et vous mettez le détergent et la tache disparaît. Ben, c'est exactement ce que le sang de Christ a fait. Il n'a pas simplement couvert, il a effacé. Et vous savez, ça vous est jamais arrivé à l'école? Il y avait des fois le prof qui, au tableau, écrivait la leçon, et puis il fallait recopier. Et puis, je sais pas, vous avez besoin d'aller aux toilettes, je sais pas, vous avez une course à faire, l'instituteur vous demande de faire quelque chose, et puis vous n'avez pas tout le temps de recopier, et quand vous revenez après la récréation, le tableau a été effacé. On peut pas retrouver ce qu'il y avait là. C'est-à-dire, t'essaies de voir, est-ce qu'on a... Des fois, il y a le reste de la craie, tu sais, mais là, non, c'était tellement effacé, il n'y a rien. À mes amis, quand le Père nous regarde, il n'y a rien. Il n'y a rien. Hilasmos. Il y a un péché que vous avez commis hier, vous êtes peut-être dans un péché. Et le Saint-Esprit, peut-être, vous reprend, est attristé, voire est éteint. Et c'est son ministère. Mais pendant ce temps-là, le Fils intercède pour vous. Donc le Saint-Esprit peut être d'une certaine manière contre vous, en tant que éducateur. Mais Jésus-Christ intercède pour vous. Il présente le sang au Père. Et le Père nous voit parfait. Alors que dans l'expérience, nous ne le sommes peut-être pas. C'est le mystère de la Trinité. C'est incompréhensible. Et pourtant, ça existe. C'est-à-dire que vous imaginez un souverain sacrificateur, donc Jésus-Christ, pour nous, qui intercède 24 heures sur 24. Et en plus, il peut le faire parce que même si c'est mon souverain sacrificateur, c'est aussi le vôtre. Donc si Aaron devait intercéder pour quelqu'un 24 heures sur 24, quid des autres? D'accord? Un homme, il peut intercéder pour une personne en permanence. Mais Dieu, lui, là aussi c'est un mystère, ça nous est pas, c'est inaccessible pour nous. Jésus-Christ prie plein de prières en même temps. Pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Des millions et des millions de chrétiens, Jésus intercède. parce qu'il a payé pour leur péché. Et ce qui justifie son intercession, c'est pas simplement « Oh papa, je suis ton fils, s'il te plaît, allez, fais-moi un cadeau, pardonne leur péché. » Non, c'est selon la justice du Père qu'il intercède, parce qu'il a, il a versé son sang. Donc c'est pas un cadeau qu'il demande, c'est une justice. C'est pour ça que la sagesse va au-delà de la justice humaine. C'est une justice qui se trouve dans le ciel. Et le Père nous voit parfait en Christ. C'est quand même extraordinaire. La sagesse de Dieu est une folie pour le religieux. Elle est une folie pour celui qui rejette Dieu de toute manière, qui ne veut pas ce Dieu de grâce. C'est une folie, mais on dit, mais attends, c'est n'importe quoi, c'est trop facile. Et pourtant, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Dans la faiblesse du pécheur, dans la faiblesse de Christ à la croix, et je dirais dans une forme de faiblesse qu'est la patience de Dieu avant que la colère ne vienne un jour. Parce qu'on a un Dieu qui est lent à la colère. Et les pécheurs en profitent, en pensant que ça ne viendra jamais. Néanmoins, c'est dans cette faiblesse-là que nous pouvons entrer. La nôtre, celle de Christ à la croix, et dans la patience du Père. Et donc, on voit là que ça représente vraiment cette sagesse spirituelle de Dieu qui engendre une nourriture spirituelle. Parce qu'il ne faut pas oublier que les victimes, là, on est dans la maison avec les sept colonnes, et les victimes sont la nourriture pour ceux qui vont entrer. Ceux qui sont peut-être encore un peu fous, qui sont un peu simples d'esprit dans le contexte de ce passage. Et rappelez-vous ce que Jésus a dit. Vous devrez vous nourrir de moi. Vous devrez vous nourrir de ma chair. Qu'est-ce que ça signifie? C'est accepter cette vérité de la, quand Christ est mort, moi je suis mort. Quand je mange la chair de Christ, en fait, je mange ma mort. Il y a une identification à la mort de Christ. C'est pour ça quand je vous parlais hier d'un Corinthiens 2, lorsque Paul écrivait aux Corinthiens, parce que eux qui se croyaient sages, en réalité, vivaient dans la division, le péché, et puis voilà, dans la suffisance, l'orgueil, l'esprit de clan. Il dit, au verset 3, « J'étais dans un état de faiblesse. » C'est pas logique qu'un grand Dieu envoie un être faible. J'étais dans un état de faiblesse, de crainte. Alors la crainte, là, j'avais étudié ce passage il y a quelques années, ça, ce n'est pas une crainte de « il avait peur de se faire arrêter » ou « crainte de la mort » ou autre, c'est une crainte devant, comment dire, la responsabilité qui lui est donnée. C'est-à-dire qu'il avait vocation à implanter une église à Corinthe, et donc qu'il avançait avec crainte. Donc il était faible, et en même temps il connaissait le plan de Dieu, la volonté de Dieu, et donc c'est cette crainte, c'est lié un peu à la crainte de Dieu, si vous voulez, de ne pas faire de tort à Dieu et de vouloir l'honorer. Donc j'étais dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Sous-entendu, la sagesse humaine ou mondaine. Ce n'était pas un discours persuasif de la sagesse, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Vous voyez le point? C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez quelqu'un qui est faible, et la puissance du Saint-Esprit se manifeste, et là vous pouvez dire, bah oui, la sagesse est efficace, la bouche est fermée. On peut critiquer, on peut douter, on peut raisonner. C'est comme les autres apôtres, à un moment donné, ils ont dû se rendre à l'évidence que Paul était choisi par Dieu. Il y avait la puissance de Dieu dans cet homme. Mais du coup, c'est une démonstration de la sagesse de Dieu. Ce qui paraît être une folie au départ, quand on l'analyse, on est obligé de dire, bah oui, ça marche. Et d'une certaine manière, c'est la même chose avec la grâce, par exemple. Quand il est dit en Tite 2:11 que la grâce nous pousse à renoncer à l'impiété, nous, d'une façon logique et selon notre justice propre, on dit ouais, « c'est trop facile ça ». Non, non, ce qui pousse à renoncer à l'impiété, c'est la peur du bâton, c'est le martinet, c'est la baguette en bois, c'est la fessée, c'est ça qui fonctionne. Non, non, Paul dit « c'est la grâce de Dieu qui nous pousse à renoncer à l'impiété ». Et le verbe est intéressant parce que c'est renoncer. Parce que la loi, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous pousse à ne pas commettre d'impiété. Mais ça ne veut pas dire qu'on renonce. Simplement, faut se tenir droit, et puis si un jour on est un peu seul, on fait ce qu'on veut. Mais on n'a pas renoncé. Alors que la grâce, elle nous pousse à renoncer à l'impiété. Et ça, c'est le fruit que Dieu veut dans notre vie. Lorsque Jésus était sur la terre, est-ce qu'il était là en disant « Bon, ce matin, il va falloir que j'enseigne les disciples, mais bon, ils sont un peu durs d'oreille, mais si je ne le fais pas, mon père va me tomber dessus. Après, je vais marcher sur l'eau, parce que sinon, mon père va me tomber dessus encore une fois. » Il vivait pas comme ça, il le faisait parce que, qu'est-ce qu'il a dit ? Ma volonté, c'est faire la volonté du Père. C'est-à-dire qu'ils étaient un. C'est ça la vraie relation spirituelle. De la même manière, la grâce nous pousse à renoncer à la piété, c'est-à-dire qu'on devient vraiment des amis de Dieu. C'est pas « je marche avec Dieu parce que sinon il va me tomber dessus », et il peut me tomber dessus, ne vous trompez pas. Je le redis encore, le Père châtie celui qu'il aime. Mais on peut espérer que le Fils ait une relation avec le Père qui n'est pas liée à un châtiment permanent. On peut espérer aussi que le Fils puisse avoir des relations d'amour avec le Père. C'est quand même la filiation à cet objectif-là, plus que d'être redressé en permanence. Donc, parce qu'on aime le Père, on fait tout pour ne pas pécher. On renonce à l'impiété. Alors, il y a encore le péché en nous, qui fait que de temps en temps, on tombe. On espère de moins en moins. Mais la réussite de la vie chrétienne, c'est de se dire, je suis réellement libre du péché. Libre. La vérité, vous affranchira. La loi ne nous affranchit pas. La vérité, oui. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, la vérité est importante. Et dans la loi, il y a la vérité, mais c'est la grâce et la vérité qui sont venues par Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ, on a contemplé Dieu et c'était gloire sur gloire. Gloire sur gloire. Gloire sur gloire. Ça ne s'arrêtait jamais. À la différence de la loi, c'est ce que Paul nous explique dans les Épîtres, vous savez, quand il parle du visage de Moïse, qui s'éteignait, et donc il est obligé de porter un voile. Alors souvent, au début, moi, quand j'avais lu ce passage, jeune chrétien que j'étais, je pensais que ça brillait tellement que ça devait éblouir les autres, et donc c'est pour ça qu'il fallait qu'il porte un voile. En fait, quand vous lisez précisément le passage, c'est pas de ça dont il s'agit. C'est qu'en fait, quand il arrivait avec son visage lumineux, après avoir passé du temps avec Dieu, Moïse rayonnait, et les gens étaient éblouis, réjouis, ils étaient contents de voir ça. Le problème, c'est que ça s'atténuait hors de la présence de Dieu, et donc ça les démoralisait. Et donc, pour pas démoraliser le peuple, ils mettaient un voile pour pas qu'on voit cette gloire disparaître. Et c'est la même. Nous aujourd'hui, la gloire de Dieu, c'est de pouvoir en permanence, par le Saint-Esprit, refléter la gloire de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons été placés dans le bien-aimé. Alors, avec nos manquements, mais la grâce, jour après jour, nous pousse à renoncer à l'impiété. Plus vous prêchez la grâce, plus vous allez convaincre des gens sincères, je veux dire, des gens qui veulent marcher avec Dieu, plus ils vont rentrer dans la sanctification. C'est la méthode, c'est la formule. Grâce plus vérité amène conviction de péché et repentance. Et c'est-à-dire, repentance, c'est métanoïa, on change de direction. C'est pas, bon, j'arrête de faire ça, mais je regarde encore, j'y touche pas. Un peu comme le chien, vous lui dites, faut pas toucher, alors il a son museau au bord de la table, mais s'il pouvait, je dirais, lui, il fait pas demi-tour encore, il obéit, mais il renonce pas. En revanche, quand on se convertit, alors, de façon générale, quand on accepte le salut, mais jour après jour, quand on se détourne des péchés, on se convertit dans un domaine de notre existence et, métanoïa, on change de direction. Ça veut dire qu'on a une vision. On a une vision. On ne se sacrifie pas pour payer un prix. Non, on se sacrifie parce qu'il y a une vision. Je vais pouvoir vivre autrement. Chose impossible par la loi, ça a été rendu possible par le Saint-Esprit qui est en moi et qui m'a été donné gratuitement parce que j'ai cru. Et c'est pour ça qu'au verset 5, c'est intéressant, il y a la sagesse, elle dit « Que celui qui est stupide entre ici ». C'est intéressant, que celui qui est stupide entre ici. Et elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez. C'est ça l'espérance qui nous est proposée. C'est que par le sacrifice de Dieu, par la sagesse de Dieu que nous avons en Jésus-Christ, qui que nous soyons, alors là, le mot stupide, dans le contexte, ça ne parle pas de quelqu'un de fou, d'idiot, qui est de rebelle. C'est quelqu'un, en fait, qui est un peu un béotien, qui sait rien, vous savez, qui est un peu neutre. Et il a un choix à faire. Soit il va aller vers la folie, soit il va aller vers la sagesse. Donc il est stupide dans le sens où il est vide. Donc venez, vous qui savez rien. C'est déjà une marque d'humilité. C'est de reconnaître le fait qu'on n'a pas le savoir, la sagesse. Et c'est normal, on ne sait pas ce qu'il y a après la mort. On ne sait pas où est la vérité. Quand Pilate a dit où est la vérité, en réalité, la vérité, il l'avait en face de lui. C'était Jésus, la vérité. Mais celui qui est humble, même s'il est stupide, il est vide, il peut se tourner vers la voie de la sagesse. Et donc cette sagesse, elle est accessible à quiconque. Et c'est ça qui est important. Et pour ça, il faut faire table rase. Un peu comme Paul, lorsqu'il parlait aux Philippiens, chapitre 3, verset 13, il dit, en parlant de la victoire, je ne pense pas l'avoir saisie, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Vous voyez ? Se portant vers ce qui est en avant. Là, il y a les Jeux Olympiques en ce moment. En plus, c'est la semaine de l'athlétisme. Là. Vous avez déjà vu, vous, sur les starting blocks, un coureur prêt à faire la partir. Là, vous savez, il y a le gars qui va tirer. Et le gars, il regarde en arrière. Celui-là, il est un peu idiot quand même. Tu vois. Non, non, mais je vais courir. Hein, je sais que c'est là-bas. Mais bon, je regarde en arrière quand même. C'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est pas possible parce qu'on a la mémoire. Donc ça, la mémoire peut engendrer de la culpabilité. Mais Jésus a dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière... Moi, vous savez, j'ai labouré, je sais ce que c'est que labourer. Alors, c'était pas un cheval, c'était un tracteur, c'est plus facile. Mais des fois, il faut être derrière quand même parce que des fois, la charrue, elle peut tomber d'un côté ou l'autre. Donc c'est bien qu'il y ait une deuxième personne derrière le tracteur qui tienne la charrue en équilibre. Mais si vous avez la tête en arrière, je veux dire... Soit ça va faire des zigzags, soit vous allez être traîné par la charrue au bout d'un moment parce que vous ne regardez pas devant vous. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors comment se débarrasser de nos souvenirs, du poids d'une culpabilité? C'est de se dire, ma mémoire n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est la mémoire de Dieu. La mémoire de Dieu. Quand je me présente à lui, il ne sort pas mes mémoires. Il ne sort pas le journal. Vous savez, j'avais entendu de la part d'un enseignant baptiste, quand j'avais fait mon master, il donnait une anecdote. Notre vie, en fait, c'est une page noire. Ensuite, pour le chrétien, c'est le péché. Ensuite, c'est devenu une page rouge, le sang de Christ. Et ensuite, c'est devenu une page blanche, grâce au sang de Christ qui a effacé nos péchés. Voilà notre vie. Et là-dessus, on peut écrire de belles choses. On peut écrire de belles choses. On va de l'avant. On va de l'avant. Et ça, c'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu qui va au-delà de la justice humaine. C'est la sagesse qui a bâti sa maison sur sept colonnes, c'est-à-dire c'est l'œuvre de Dieu, c'est parfait, il n'y a rien à rajouter. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a égorgé ses victimes. Elle a mêlé son vin. Le corps de Christ et le sang de Christ. C'est là où la sagesse de Dieu a bâti sa maison. Lorsque Pierre a reconnu en Jésus le Fils de Dieu, il dit sur cette confession, « Je bâtirai mon Église ». C'est sur l'œuvre du Messie. C'est la foi dans l'œuvre de quelqu'un d'autre. Pas la mienne, mais celle de Dieu, afin que lui seul soit glorifié. Et lorsqu'on glorifie la croix et l'œuvre de Christ, on glorifie Dieu en réalité. Et donc, il y a une promesse là, c'est que si on choisit la sagesse et sa maison, nous vivrons. Nous vivrons. Et honnêtement, le verbe vivre, c'est un mot sur lequel il faut méditer. Vivre. Qu'est-ce que ça signifie pour moi ce soir, vivre? Je suis vivant, mais est-ce que je vis? Vivre, une promesse, vous vivrez. Il y a des gens qui sont vivants, mais dans leur péché, dans leur culpabilité, dans leur, occupation mondaine, ils perdent du temps en faisant certaines choses. Ils ne vivent pas. Ils ne vivent pas. Moi, il y a une chose qui me... Et, j'ai une télé chez moi, des fois je peux faire des écarts, je ne suis pas parfait, mais la télé... a le rôle qu'elle doit avoir, je crois, dans ma vie, pas plus ni moins. Mais quand je vois des gens qui passent des heures et des heures, des années entières à regarder la télé, et on appelle ça vivre, ils travaillent toute la journée, ils ont des fois du mal à finir leur fin de mois, ils ont des vies compliquées, et voilà, il faut qu'ils pensent à autre chose peut-être, j'en sais rien, mais ils sont dans un canapé en regardant une image animée pendant des heures et des heures, sans parler de la journée avec les téléphones, je parle que de la télé, vieille école. Mais c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Ça, on appelle ça vivre. Vivre. De quoi est fait notre temps? Et Dieu peut nous donner une créativité, nous permettre de faire de belles choses dans la vie. Vivre, vivre Christ. Je veux dire, ce que l'on vit, c'est là, ces jours-ci, ce sont des vacances. On est d'accord, hein, y a pire comme existence. Mais en même temps, on vit, il y a la communion fraternelle, il y a le même langage, il y a quelque chose. Alors des fois, on parle de tout, de rien, puis je vois cet après-midi, on papote et tout, puis d'un moment, la parole de Dieu qui commence, et puis une petite question, et puis voilà ça. Et puis le Saint-Esprit dit, je suis là, entre frères et sœurs, on partage des réalités spirituelles, on essaye d'avancer ensemble, on s'interroge, d'autres vont prier, vivre, vivre, c'est la sagesse de Dieu. Mais ça, c'est possible pour les gens qui, peut-être sans le savoir précisément, ont un cœur pour cette vérité, pour cette sagesse. Pour ça, Jésus a dit « Ne donnez pas des choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos pères devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. » Et dans ce passage de Proverbe, on a cette idée-là. Au verset 8, « Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse, et reprends le sage et il t'aimera. » C'est intéressant parce que là aussi, une phrase un peu bizarre, reprendre le sage. S'il est sage, à mon avis, tout va bien. Non, nous faisons des erreurs. Mais la sagesse, c'est d'être repris. Donc, reprends le sage et il t'aimera. Pourquoi? Parce que quand tu vas le reprendre, tu as comme objectif pour lui qu'il s'approche plus de Dieu, qu'il soit moins subjectif, qu'il ait du discernement, qu'il se repente peut-être, j'en sais rien, en tout cas, qu'il avance en direction de Dieu. Et lui, c'est son cœur aussi de vouloir avancer avec Dieu. La seule chose, c'est qu'il y avait peut-être un point aveugle dans son regard, vous savez. Est-ce que c'est le point aveugle, hein? C'est terminaison nerveuse, le nerf optique, et ce qui fait qu'il y a un endroit où on ne voit pas. Si vous passez vos doigts devant votre œil, à un moment donné, vous le voyez plus. Ça s'appelle le point aveugle. Et on a tous des points aveugles dans l'existence, alors qu'on est persuadé que tout va bien. Et donc, on a besoin du regard des autres, parfois. Mais si moi, j'ai le désir de suivre Dieu, je vais me réjouir d'être repris. Pas me réjouir, le mot est un peu fort. Mais je vais être reconnaissant. Et c'est ce qu'il dit. Reprends le sage et il t'aimera. Parce que il aura trouvé quelqu'un qui l'aide à avancer. Le moqueur, lui, de toute façon, il a déjà décidé que c'est non. C'est pour ça que dans les conseils qu'on peut se donner les uns aux autres, ou qu'un pasteur peut donner, moi, il y a des fois, je me tais, hein, je dis rien. C'est pas le moment. D'une certaine manière, les gens sont rebelles ou moqueurs. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire, ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Bon, ça n'empêche pas des fois la haine quand même, mais toujours est-il que il faut pas jeter les perles au pourceau. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut avoir la sagesse de dire, la sagesse est pour ceux qui ont un cœur après Dieu. Et ça peut être des fois un non-croyant, mais un non-croyant, quand on évangélise dans la rue, c'est pas schématique que de dire, il y a les non-croyants, ou les croyants d'une autre religion, il se fait que vous leur parlez, vous avez l'impression d'avoir perdu votre temps. Alors c'est peut-être pas vrai, peut-être que la conversation reviendra dans quelques années, mais dans un premier temps, ils avaient une opinion avant, ils ont la même opinion après. Voilà. Et puis vous avez ceux qui sont là, qui font leur course un samedi après-midi sur une place de Paris à Guy-Moquet, et puis vous distribuez un tract, la personne pose ses sacs, regarde le tract, puis commence à poser des questions, et là en fait c'est la personne qui est décrite dans ce passage. Elle est stupide dans le sens où elle connaît pas la vérité, elle sait pas où elle est, mais elle a pas d'a priori. Elle se moque pas. Et d'un seul coup, pendant une demi-heure, vous avez des questions. Moi, ça m'émerveille Alors, il y en a peu qui se convertissent là devant vous, mais il y en a. Hein, combien de fois notre sœur, elle n'est pas là ce soir, Maryse, mais combien de fois elle a prié avec des gens dans la rue? Mais il y en a eu d'autres où on a prié. Mais rien que le fait déjà que des Parisiens qui font leur course un samedi après-midi, tu les vois, ils sont, en plus, des fois, il pleut. Et puis, ils posent leur sac, ils discutent une demi-heure avec vous. Tu dis, on n'est pas en France. Non, on est là-haut. On n'est pas en France. endroit où tu fouleras ton pied, ça t'appartient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la majorité de la foule qui applaudit, vous avez une âme. Une âme. C'est la sagesse de Dieu. C'est quelque chose qui me fascine, moi. Parce que c'est ce que dit ce verset, ce sont des gens stupides, mais quand la sagesse crie, ben elles viennent. Tu vois, elles s'approchent, il y a quelque chose qui les intéresse. Et c'est pour ça que l'Église a comme objectif, normalement, et j'aime cette expression de Pasteur Chaleur à Baltimore, on doit saturer l'Église de la parole de Dieu. On doit la saturer. Pourquoi ? Parce que Jean 17, on est sanctifié par la vérité. Ta parole est la vérité. Donc déjà, sans parole, il n'y a pas de sanctification. Ou alors c'est une sanctification alambiquée qui vient d'autres concepts religieux, peut-être. Mais c'est la parole de Dieu qui sanctifie. Et surtout, c'est que tout le monde ne peut pas être là à tout, donc il faut être disponible, surtout où je vois à Paris avec des gens maintenant qui ont des emplois du temps compliqués. Mais la chose, c'est que il y a des gens qui n'attendent que ça, qui attendent d'écouter la parole de Dieu. Et donc il faut la livrer, la proposer. Offrir, c'est un trésor, la Bible. C'est un trésor. Moi, je sais, quand je me suis converti, il y a une chose qui m'a énervé, mais tout de suite, dès les premières heures, c'est quand j'ai commencé, le 24 heures après ou 36 heures après, quand j'ai commencé à lire l'Épître aux Romains, j'ai été furieux de ne pas connaître ce livre avant. Ça m'a énervé. Parce que je savais que la Bible existait, mais là, et j'avais aucun enseignement. Je me suis converti un dimanche, c'était lundi, après-midi. Donc je suis allé à la CLC, j'ai acheté une Bible, je suis revenu, qu'est-ce que je vais lire ? On me dit de lire le Nouveau Testament d'abord, ok, quel livre ? Moi qui aimais bien l'Antiquité, j'avais été en Grèce, voire Corinthe d'ailleurs, j'ai vu Corinthe, il ne reste pas grand-chose de Corinthe, mais bon, j'ai vu Corinthe. Et je vois l'Épître aux Romains. Ah tiens, il y a une lettre écrite aux Romains, bah tiens, je vais la lire. Pas mal, pour commencer. Et j'ai refermé le livre et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. C'était disponible, c'était là et je passais à côté pendant des années. Je l'ai relu une deuxième fois d'affilée. Je ne me suis même pas levé du canapé, j'ai relu une deuxième fois. Mais tout ça pour vous dire que cette parole peut faire des miracles dans les cœurs. Mais ces cœurs-là, on ne les connaît pas encore. Donc il faut arroser, il faut saturer, il faut arroser la parole de Dieu. Et chez certains, vous allez voir des fruits arriver, chez d'autres. C'est ce que Jésus dit au niveau de la semence. Il y en a qui... Combien de gens nous ont dit, nous... Ah, c'est super votre enseignement. Oh, l'Église, wow, ils se réjouissaient. Et les soucis de la vie fait qu'ils ne sont pas restés longtemps. Puis d'autres, ils sont là pendant des années. D'autres, ça les atteint pas. Enfin, voilà, c'est un mystère. Mais ça ne nous regarde pas. On sème. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus, dans la parabole, ne nous dit pas choisissez le terrain. Il nous dit de semer. C'est lui, après, qui s'occupe du reste. C'est lui. Et on a des surprises, c'est la sagesse de Dieu. Des gens, moi je me rappelle quand je suis arrivé à l'église, je devais faire la tête, hein, comme souvent, et je me rappelle un pasteur assistant m'a dit des années après, il dit, toi quand tu es arrivé à l'église, je me suis dit, ouh, lui il restera pas longtemps. Il n'était pas prophète, hein, il a raté son coup. Mais il ne savait pas ce qui se passait dans mon cœur. Il ne savait pas. Mais je venais, et la parole de Dieu produisait son effet. Voilà, il y avait quelque chose. Alors bien sûr, et la réponse de ma part était importante, mais si j'avais pas eu cette graine semée dans mon cœur, je serais pas là aujourd'hui, c'est évident, évident. Et donc j'avais pas d'autre choix que de me placer sous la parole de Dieu. Et au verset 9, donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Vous voyez ? Et donc on doit cette instruction venir en permanence. Jean a parlé de l'apôtre Jean, mais dans son évangile, mais Jésus a dit ça en Jean 3, versets 20 et 21. Quiconque fait le mal est la lumière, du verbe haïr, et ne vient point à la lumière. C'est-à-dire que la sagesse ou la parole, ça n'intéresse pas. De peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Ce qui est intéressant, c'est comment quelqu'un qui n'est pas encore à la lumière peut agir selon la vérité. Normalement, c'est pas possible. Il faut être à la lumière déjà, pour agir selon la vérité, selon mon concept. Mais là, Jésus parle de l'attitude. L'attitude de la personne qui sait où elle en est. Donc, elle agit dans la vérité. Elle sait qu'elle pêche, elle sait qu'elle a besoin de Dieu, elle sait qu'elle a besoin d'être enseignée, elle n'est pas orgueilleuse en disant « moi, je sais tout ». Donc, dans cette attitude d'humilité, de recherche de la lumière, elle va venir à la lumière. Donc, Jésus dit, celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Elles sont pas faites en lui-même. Elles sont faites en Dieu. Et c'est pour ça que nous avons une espérance. C'est pas en nous-mêmes qu'on doit faire les choses. En Matthieu 3, versets 12 et 13, Jésus a dit, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, etc. Donc là, il fait référence aux pharisiens. Eux, ils croyaient tout avoir. Mais en fait, ils n'avaient pas. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient rester dans la notion du bien et du mal, dans le légalisme. Ils n'acceptaient pas la grâce et la vérité. Et donc, ce qu'ils croyaient avoir allait leur être retiré. Ils étaient dépositaires de la Torah, mais en fait, ça ne produisait pas la vie. Et donc, la Torah, la parole, l'appel et la nation d'Israël, de façon générale, ça va leur être enlevé. Et par contre, on va rentrer dans une autre dimension où on adorera Dieu en esprit et en vérité. Et ce sera offert aux païens, à tous ceux qui veulent. Pas à une nation élue, à tous. Et donc aujourd'hui, l'Église, quel est son rôle? C'est, avec Christ qui est en train de bâtir son Église, de crier dans les rues et de dire d'une certaine façon, « Elle est stupide, venez, on a des choses à vous dire. » Et viendra qui voudra venir. Ce sera la sagesse de Dieu révélée par l'Église. Une Église qui, dans son expérience, va parfois faillir. Il y aura parfois des divisions, des fois des persécutions, parfois des problèmes, je sais pas, matériels, financiers, des manques d'ouvriers dans la moisson. Voilà, c'est la vie. C'est l'existence qui est la nôtre. Mais néanmoins, on va crier sur la place publique et on va dire, là, il y a la sagesse de Dieu. Il y a les sacrifices qui ont été offerts, il y a le vin mêlé, le sang de Christ. Nourrissez-vous de cette nourriture-là. Et vous allez voir que vous allez rencontrer la sagesse.